On est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour et ravi de vous retrouver dans 7 milliards de voisins. D'ici à 2030, dans moins de 10 ans, 2 milliards de personnes sur Terre vivront dans des bidonvilles, ces zones d'habitat clandestines qui ne cessent de grossir à mesure que la ville rejette en périphérie les citoyens qu'elle ne peut plus absorber. Tantôt détruits, puis reconstruits, rasés, pointés du doigt comme des quartiers dangereux dans lesquels il est déconseillé de se rendre, pourquoi ne demande-t-on pas plutôt à leurs habitants ce dont ils ont besoin, eux, pour vivre un peu plus dignement ? Les bidonvilles ne sont-ils pas finalement le symptôme même de notre société néolibérale ? Quelle politique publique pour rendre l'habitat plus digne ? Ce sont les questions que nous allons nous poser aux côtés de Thierry Pacaud, philosophe et essayiste, auteur de l'ouvrage « Les bidonvilles à la découverte » et Valérie Claire, architecte urbaniste et chercheuse à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Nous partirons également en Inde aux côtés de notre correspondant Sébastien Farcy. Pour participer à l'émission, appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Thierry Pacaud, bonjour.
Bonjour.
Valérie Claire, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Thierry Pacaud, vous venez de publier, je l'ai dit, le livre « Les bidonvilles » aux éditions La Découverte. Un livre qui commence par une image mentale du bidonville qui se crée dans la tête de celui ou celle qui prend l'avion. L'image de ces bric-à-brac, pour reprendre votre expression, qui encerclent la ville dans laquelle vous êtes sur le point d'atterrir. Est-ce qu'il existe, Thierry Pacaud, une définition précise de ce que c'est qu'un bidonville ?
Alors oui, bien sûr, il y a une définition, j'allais dire, officielle par l'Officine des Nations Unies Habitat, qui siège à Nairobi, et qui dit en gros qu'il s'agit d'habitations, alors vous avez dit tout à l'heure clandestines, c'est pas, oui on peut dire ça comme ça, mais enfin illégales, qui sont sur un terrain généralement squatté, et dont la brie est constituée d'éléments de bois, de paille, de branchages, de tons ondulés, bon, de bric-à-brac justement. Et c'est généralement des lieux qui sont près de décharges, sur le flanc de collines. Ils peuvent être au centre des villes. Hein. Tout à l'heure, vous disiez que les bidonvilles étaient repoussés. Il y en a qui sont plein cœur des villes, mais c'est des zones considérées comme provisoires, ce qui est un provisoire qui dure, puisque les bidonvilles telles qu'on les évoque, si je passe aux favelas, elles ont plus de 100 ans.
Valérie Claire, est-ce que il y a comme ça des critères à cocher pour se faire reconnaître entre guillemets en tant que bidonville ? Comment est-ce qu'on sait que cette zone-là est un bidonville plus qu'une autre ?
En fait, c'est la chose la plus facile et la plus difficile à définir, un bidonville. La plus facile parce que les gens, ils savent. Ils disent, je suis dans un quartier pas très normal. Et c'est la meilleure définition, en fait. Hein. Anormal, hors des normes. Et en réalité, en 2002, la définition dont a parlé Thierry, là, à l'instant, ça a été une véritable prise de tête pour la mettre en place. Parce que c'est extrêmement difficile à définir à l'échelle internationale et... Pour moi, en réalité, à l'échelle internationale, mais peut-être je développerai ça après, c'est impossible. C'est-à-dire, on ne peut pas caractériser des lieux qui sont aussi différents que, effectivement, comme le disait Thierry, c'est du bric-à-brac, de la tôle et du papier, mais c'est aussi des immeubles en béton armés de cet étage à d'autres endroits. C'est là où il y a les plus pauvres des plus pauvres, mais moi j'ai rencontré des avocats, des étudiants, des fonctionnaires. C'est des endroits qu'on dit un petit peu sinueux, etc. Mais en réalité, il y en a qui sont extrêmement orthogonaux et qui respectent les normes en vue de se faire régulariser. Et donc, en fait, il y a une variété telle que c'est impossible de les définir par leurs caractéristiques. Et quand l'ONU a fait une définition, elle l'a faite en deux parties. Elle a dit c'est un établissement contigu où les habitants sont caractérisés comme ayant une habitation et des services de base inadéquats. Inadéquat, c'est complètement subjectif hein, comme définition. Il est souvent non reconnu et traité par les autorités publiques comme une part intégrale de la ville. Ça, c'est à mon avis, le cœur disons, la moins mauvaise partie de la définition. Et puis ensuite, comme cette définition a été mise en place pour les objectifs du millénaire, avec l'idée que des Nations Unies, avec l'idée de diminuer le nombre de gens dans les bidonvilles, ils ont déterminé des critères. Alors c'était si une des choses n'était pas remplie, dans l'accès à l'air amélioré, l'assainissement amélioré, la surpopulation, la taille des habitations, l'insécurité de la tenure, quelque chose qui est complètement impossible. Alors la tenure, c'est la façon dont on tient sa maison. Est-ce que c'est par une location, par un squat, par un achat, etc. Donc on est en insécurité, on risque de se faire bulldozeriser, en fait, c'est ça. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que progressivement, même l'ONU s'est mis à essayer de définir, d'utiliser ces caractérisations qui sont là pour les compter, parce que c'est difficile à compter. Et il fallait trouver un moyen de compter à l'échelle internationale. Ils ont fini par en faire presque une définition. Mais justement, comme je vous disais au début, ça ne peut pas être la définition. On ne peut pas définir ces quartiers par ses caractéristiques à l'échelle internationale. Mais peut-être je reviendrai, parce qu'en fait, c'est vraiment sur cette question de définition qu'aujourd'hui je travaille pour montrer qu'en réalité, les quartiers informels n'existent pas. Ce sont des quartiers. Ils n'existent pas comme informels. Ils sont catégorisés comme informels. Je reviendrai là-dessus après.
Il recouvre donc une multitude de réalités différentes, ça on va le voir tout au long de l'émission, mais ils sont tous regroupés sous cette même appellation, bidonville. Thierry Paco, est-ce que vous pourriez nous dire d'où il vient ce mot ?
On cherche toujours, parce que Claude Liozu, qui avait travaillé beaucoup sur la Tunisie, a trouvé un article de presse de 1931 où un médecin tunisien parlait du bidonville. Pierre-Marc Orlan, qui va barouder dans ces coins-là, parle aussi du bidonville en 1934. Un document officiel français, puisque la France possédait à l'époque les trois pays du Maghreb actuel, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Un document officiel au Maroc parle de bidonville en 1939. Donc c'est un terme, ce qui est à mon avis à retenir, c'est un terme qui surgit au moment de la grande crise économique de 1929-1930. Et c'est pas par hasard, c'est une crise de surproduction, donc les usines s'arrêtent, les ouvriers n'ont plus d'emploi. Et ils réutilisent des tôles qui servaient à fabriquer les bidons d'huile, d'olive et les bidons de pétrole pour en faire des objets de la vie quotidienne. C'est pour ça que je cite un article de René Monnier qui est prémonitoire à ce niveau-là. Et il montre comment on fait des lampes, comment on fait des récipients, etc. Et aussi des cloisons pour un abri.
Alors Thierry Paco, vous commencez votre ouvrage notamment en parlant des odeurs caractéristiques du bidonville, en proposant à vos lecteurs de ne pas se boucher le nez hypocritement, je vous cite toujours, et à comprendre que derrière cela, il y a une réalité qu'on ne soupçonne pas forcément si on n'en a pas fait l'expérience physique, celle tout simplement des latrines inexistantes par exemple, qui obligeraient 700 millions d'Indiens à faire leurs besoins en plein air. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on va parler de l'Inde dans quelques instants, alors qu'il y a pourtant un plan national de construction de latrines dans le pays. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce plan ?
Ben, comme toujours avec ce régime qui est très discutable et très discuté, il y a eu comme souvent des intentions qui ont été formulées et puis la réalité ne suit pas parce que les travaux ne sont pas engagés, le financement à un moment donné est détourné par une corruption locale, etc. etc. Donc la situation est toujours aussi catastrophique pour les bidonvilloises et bidonvillois de l'Inde. Et là je reviens à ce que disait Valérie qui est très très important, on ne peut pas définir bidonville mais en plus il y a une incroyable variété de tailles de bidonvilles. Moi, j'ai vu en Inde des mini-bidonvilles, c'est de 10-12 familles, qui viennent s'agréger à une gated community, parce que, en fait, dans cette enclave résidentielle sécurisée, le petit personnel n'est pas logé, donc il va loger comme ça, tout à côté de son lieu de travail, et fait un petit bidonville qui a des allures d'habitat rural. Là aussi, vous voyez, il ne faut pas avoir une image dévalorisante du bidonville, ni de l'autre sens, comme on en parlera tout à l'heure, les considérer que c'est un lieu d'inventivité, etc., je n'y crois pas trop. Mais en même temps, j'ai vu des bidonvilles plutôt en branchage, d'une incroyable propreté, et les gens que j'ai questionnés me disaient que c'était leur habitat de la campagne, ils l'avaient simplement transposé en ville, quoi.
Alors qu'on parle souvent effectivement des très gros bidonvilles, est-ce que Valérie Claire, c'est un peu les arbres qui cachent la forêt ? Ces très grands bidonvilles dont on parle régulièrement, je crois que le plus grand, c'est celui de Orangita, on a Karachi, qui aurait 2,4 millions d'habitants.
Oui, alors il y en a des immenses, et c'est vrai que beaucoup de chercheurs travaillent sur les plus grands, les plus visibles, les plus emblématiques, je dirais, qui ne sont pas forcément les plus grands, mais les plus emblématiques, ceux sur lesquels... Voilà. Et effectivement, la question de la taille est importante parce que, justement, dans les définitions nationales, par exemple en Inde, la question de la taille fait partie de la définition. C'est toute agglomération de plus de 60 ménages, je crois, pour la définition nationale, ou de plus de 20 ménages, je crois, pour le recensement. Je ne suis pas archi sûre des chiffres, mais je suis certaine qu'il y a une vraie différence, ne serait-ce qu'entre le recensement et la définition. Alors que, et puis il y a des bidonvilles qui ne sont pas recensés, en général qui sont dans les petites villes, on n'en parle pas, mais c'est, voilà. Il y a depuis assez récemment des politiques qui concernent les petites villes. Sur la question des mots, peut-être, vous disiez de quand date le mot bidonville. Mm-hmm. Donc le mot bidonville, c'est un mot français. Mm-hmm. En anglais, il date de la fin du 19e siècle. Mais il y a des historiens des bidonvilles qui montrent qu'il y avait déjà des bidonvilles au XVIIIe siècle en Amérique latine. Moi, je trouve ça très intéressant parce que bon, certains de ces mots comme slum ou bidonville sont devenus des mots génériques qui s'adaptent, enfin qui s'appliquent également, par exemple, aux favelas, aux barrios, etc.
Et voilà, favela, c'est aussi un autre mot.
Qui est un autre mot.
Une autre terminologie.
Mais en fait, il y a une chose qu'il faut tout de suite regarder sur les mots, c'est qu'il y a deux types de mots, en réalité, pour parler des bidonvilles. Il y a des mots... Alors, je dis bidonville ici parce que c'est le titre de l'émission. J'aurais pu dire quartier informel ou essayer de trouver un mot qui est le plus neutre possible, mais il n'y a pas de mot neutre. Il y a deux types de mots. Le premier type de mot, c'est le mot que nous utilisons, Thierry, vous, moi. C'est parce qu'on cherche à caractériser une situation à l'échelle internationale. Et là, ce sont des mots qui sont utilisés par les chercheurs, par les experts, les journalistes, par l'ONU, et qui cherchent à théoriser, à essayer de comprendre la définition, à comprendre ce que c'est, à comprendre pourquoi, alors qu'on connaît depuis 70 ans ce qu'il faut faire, et ben aujourd'hui on est à 1 milliard de personnes, enfin autant qu'on puisse les compter, comme on a vu tout à l'heure, c'est difficile. Et ces mots-là, ils sont... Il y en a plein, c'est-à-dire qu'il va y avoir slum, il va y avoir bidonville, mais il va y avoir l'autoconstruction, les quartiers non contrôlés, les quartiers non planifiés, les quartiers irréguliers, les quartiers spontanés, les quartiers sous-intégrés, les quartiers illégaux, non régulés, subalterne urbanisme, zones grises, quartiers incrémentaux. Et derrière chacun de ces mots, qui cherche à théoriser à l'échelle internationale, il y a ce que veut faire passer le chercheur, l'expert ou le journaliste comme caractéristique principale. Alors par exemple, le quartier précaire, c'est parce qu'on veut vraiment insister sur la précarité de l'installation, mais la précarité on peut se faire bulldozeriser. Et ces mots-là, c'est les mots du UN Habitat, ils bougent. Même UN Habitat, depuis 1960, a changé de mot régulièrement. Au début, il parlait d'habitat inadéquat, d'établissement à temps contrôlé dans les années 60-70, puis ils sont passés à urbanisation non planifiée, puis ils sont passés à slum, et puis slum and informal settlement, maintenant ils en sont là, depuis 2016. Donc ce que je veux dire, c'est que ces mots-là, cherchent à caractériser, comme on cherche à le faire là tout de suite, c'était votre première question. En réalité, il y a un deuxième type de mots. Et ces mots-là sont utilisés par les gens et par les politiques de chacun des pays. Alors voilà, on a parlé tout à l'heure, bidonville et slum font partie, parce que c'est des mots qui sont devenus génériques, mais il y a Asimentio Irregulares, Barrios Marginal, Barracas, Villa Miserias, Tanaque, Ashuaia, Mujalafat, Favela, Cortisos, il y en a des centaines. Et il y en a des centaines parce que dans chaque pays, c'est différent. Dans chaque pays, la définition est différente. Quand il y a une définition, et dans chaque pays, il y a, dans chaque ville même, par exemple, et même plusieurs dans une ville. Par exemple, à Delhi, on va parler des Jugejopri, des Unauthorized Colony et des Slum Designated Area. Voilà. Mais ces mots-là, ils servent à désigner des catégories locales qui sont toujours différentes et qui sont définies par les institutions locales. Et donc la définition, quand on regarde ça, ces deux catégories de mots, une définition qu'on pourrait donner, mais je vais revenir pour la rechanger après, ce sont des quartiers qui sont hors les normes institutionnelles, ça veut dire les lois, les politiques, etc., locales. C'est-à-dire qu'on ne peut
pas
les
définir. Comme vous dites, on sent que
on peut pas les définir parce qu'ils sont, mais simplement parce qu'ils sont en dehors d'une réalité locale et d'une histoire locale.
Alors vous parliez de l'Inde il y a un instant, on va justement aller y faire un tour. Alain Rakaraman et Nicole Scherzinger dans 7 milliards de voisins sur RFI avec J-Ho, la bande originale du film Slumdog Millionnaire de Danny Boyle qui raconte l'histoire rocambolesque et romantique d'un garçon d'un bidonville de Bombay. Cela se déroulait justement à Dharavi, qui est l'un des bidonvilles les plus peuplés d'Asie avec environ 1 million de personnes. Mais là encore, le mot bidonville doit être réévalué. Sébastien Farcy, vous êtes notre correspondant en Inde. Bonjour Sébastien.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous êtes basé à New Delhi aujourd'hui, mais vous avez vécu à Bombay pendant 3 ans et vous connaissez bien ce bidonville de Dharavi rendu célèbre par le film.
Oui, j'y suis allé en fait plusieurs fois et ça a toujours été une vraie découverte. Et ce qu'on raconte sur le mot bidonville m'a toujours marqué parce qu'on n'a pas l'impression d'être vraiment dans un bidonville quand on y va. Hein. Dharavi, c'est une ville dans la ville. C'est à Dharavi, par exemple, qu'on trie, qu'on recycle une grande partie du plastique de cette mégalopole de Bombay de 20 millions d'habitants. On retape aussi les bidons de peinture usée. Des couturiers dans les petites ruelles travaillent pour de grandes marques étrangères. Donc Donc vraiment, c'est une ville avec toutes ses activités. Alors, les conditions de travail, bien sûr, eh bien, sont difficiles. Les logements, généralement précaires, exigus. La base de ces bâtiments sont généralement en béton. Encore une fois, pas en bidon. Il faut vraiment voir la scène. Mais bien sûr, comme voilà, la croissance est exponentielle, eh bien, on surélève tous ces bâtiments eh bien, par de la tôle, du parpaing. Enfin bon, on construit par-dessus comme ça vient. Et à cause de tout ce statut informel, eh bien, beaucoup de connexions électriques, de l'eau aussi sont illégales. On voit les fils passer partout, un petit peu la méthode araignée qu'on connaît. Mais en fait, voilà, on se rend compte que toute cette activité qui est très dynamique, hein, qui marche 24 heures sur 24, eh bien, ça crée une économie à part entière, une économie locale avec ces populations riches. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, eh bien, en passant dans une allée au milieu de ce bidonville surpeuplé, eh bien, devant des bijouteries. Oui, j'ai vraiment vu ça. Des bijouteries remplies d'or à l'intérieur d'un bidonville. Donc, on est dans un des plus grands bidonvilles d'Asie, mais ça ressemble plutôt à un monde des merveilles, si on peut dire. On trouve le pire, le meilleur. C'est ce qui a inspiré sûrement ce film de Danny Boyle où vraiment des jeunes pauvres, eh bien, espèrent pouvoir en sortir et trouver le mieux. Et ce qui est le plus frappant aussi, c'est que, en fait, on est à Bombay ici dans un quartier en centre-ville qui est à 1 kilomètre du centre d'affaires de la ville, de la bourse de l'or de la ville, où le mètre carré est l'un des plus chers du pays. Et en fait, eh bien, cette proximité entre pauvres et riches, eh bien, elle dérange pas trop. C'est plutôt l'inverse. Les deux mondes sont assez interdépendants, comme on le disait, les riches qui ont besoin de la main-d'œuvre ou des artisans des populations des bidonvilles.
Mais Sébastien, à Bombay, comme les autres villes indiennes, la croissance de ces quartiers informels crée des tensions.
Oui, bien sûr, car la population urbaine est en train d'exploser en Inde. À peine un tiers de la population indienne aujourd'hui habite en ville. Et les Nations Unies estiment que dans les 30 années à venir, ces métropoles compteront 300 millions de personnes en plus, soit une augmentation de la population urbaine indienne de 60% en 3 décennies. C'est énorme. La migration urbaine, elle arrive à une vitesse folle, surtout car le travail agricole est dur, il est peu rémunérateur et les jeunes générations, eh bien, elles aspirent à mieux. Le pays n'est pas si grand en termes de terrain, d'occupation. Donc les villes, elles manquent toujours de terrain. Et à Dharavi, par exemple, les autorités essayent depuis des années de déloger ses habitants pour récupérer ce terrain d'environ 2 km² qui est aujourd'hui au centre de la ville. Mais ces plans, en fait, d'expulsion, de relogement n'ont vraiment jamais abouti.
Et à New Delhi, Sébastien, là où vous êtes situé, c'est aussi la ville la plus peuplée du pays. Comment ça se passe ?
Eh bien, il y a une dizaine d'années, avec les jeux des Jeux Olympiques du Commonwealth, eh bien la municipalité a renvoyé une grande partie des bidonvilles qui étaient dans la ville. Eh bien, ils les ont relogés en banlieue, dans des tours, plus ou moins bien. Mais cela n'a pas vraiment fait disparaître le logement informel. Autant à Bombay, on a l'impression que on traverse une ville, la capitale financière, on a l'impression que c'est une accumulation de bidonvilles en quelque sorte, enfin des bidonvilles qui sont juxtaposées avec les quartiers riches. Autant à Delhi, ça se voit un peu moins, mais ça ne veut pas dire que le logement informel a disparu, hein, car les migrants qui sont très très nombreux, ils construisent facilement sur du terrain municipal de la proche banlieue des maisons en dur, encore une fois, qui forment progressivement et bien des quartiers d'apparence normale. Et au bout de plusieurs années, et bien ces zones résidentielles, oui, elles s'intègrent à la ville. On appelle ça les informal settlements parfois. Et puis finalement, ben, ça devient formal, plus ou moins. Et donc, on peut pas vraiment parler d'un plan d'occupation très bien respecté ni pensé. Il y a même, et il faut le dire, ça c'est particulier à Delhi, je pense, des quartiers informels de riches dans le sud de la capitale qu'on appelle les farmhouses, les résidences de campagne, car ce sont vraiment des maisons très luxueuses, entourées de grands jardins, dans des quartiers boisés que les riches habitants de Delhi vont louer pour organiser de grandes soirées ou des mariages. Techniquement, ce sont des squats hein, où la municipalité refuse de distribuer de l'eau ou de l'électricité et qui en fait survit grâce à toute une mafia bien organisée qui vient distribuer par camion interposé ou récupérer de l'électricité. Les autorités ont déjà fait raser des dizaines de ces maisons ces dernières années, surtout quand elles posent des problèmes environnementaux, car elles sont installées sur les rives de fleuves ou dans des zones sensibles. Mais il est difficile en fait, eh bien, de renvoyer tous ceux qui sont installés et ces maisons continuent à grandir, eh bien, sur des terrains, on va dire, illégaux.
Sébastien Farcy, vous étiez en direct de New Delhi. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci à vous, au revoir.
Alors Thierry Paco, on l'a entendu dans ce que disait Sébastien Farcy, notre correspondant en Inde. La réalité des bidonvilles, elle n'est pas identique partout. Vous avez, vous, convié vos lecteurs notamment à faire un petit tour du monde des bidonvilles pour rendre compte de la diversité des situations. En quoi est-ce que le bidonville de Dharavi, par exemple, dont on vient de parler, est différent d'un bidonville à Istanbul, par exemple ?
C'est très compliqué, Valérie pourra compléter tout ça. La principale différence entre les deux serait qu'à Dharavi, on produit des richesses. Il y a des ateliers, il y a de confection, de cuir, etc. Donc il y a toute une activité économique très importante, qui n'est pas le cas nécessairement des bidonvilles d'Istanbul.
C'est une exclusivité.
Ce sont par ailleurs des bidonvilles en hauteur. Donc ça aussi, ça change. C'est des bidonvilles de 5-6 étages. C'est pas du tout la même chose. Mais je voulais revenir sur un point que je développe dans mon livre, c'est que contrairement à l'histoire des mots qu'on peut dater, puisque le mot slum apparaît en 1811, etc., moi j'essaie d'expliquer, c'est la thèse que je développe, qu'il n'y a pas d'urbanisation sans bidonvillisation. Depuis les Grecs, depuis les Égyptiens même, depuis la Mésopotamie, je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu des grands, des énormes chantiers comme ceux des pyramides, et beaucoup plus tard ceux des cathédrales, on avait besoin d'une main-d'œuvre importante, qu'on appelle flottante, nous, et qu'on installait provisoirement, mais c'était un provisoire qui pouvait durer 20 ans pour le temps d'un chantier d'une pyramide. Et donc, on les laissait autoconstruire leur habitat plus ou moins rural à proximité du chantier. Donc moi, je pense que c'est vraiment un point de vue occidental que de décréter qu'il y a un bidonville, avec la difficulté de le définir, depuis, disons, le début du XXe siècle.
Donc la bidonvillisation, c'est forcément le produit de l'expansion de la ville.
Oui, moi je pense que ça va ensemble.
Alors, les causes...
De la même manière qu'aujourd'hui, on pourrait parler de suburbisation, c'est-à-dire de banlieusisation totale des villes, c'est des processus qui sont concomitants.
Valérie Claire, on l'a entendu aussi dans ce qu'a dit notre correspondant en Inde, Sébastien Farcy. Il y a quelque chose qui s'est créé, des espèces de ghettos de riches. Qu'est-ce que c'est ? Ces quartiers résidentiels pour... Ça vous a fait sourire quand il l'a dit, ces quartiers informels aussi, destinés exclusivement aux plus aisés.
Oui, ça m'a fait sourire parce que souvent on parle d'habitat illégal à propos des quartiers informels. Et que en réalité, il y a plein d'illégalités qui sont pas des quartiers qu'on veut détruire, de type bidonville. Ce qui renforce en fait cette idée que j'ai qu'en réalité, il n'y a pas de quartiers informels, il n'y a que des politiques qui catégorisent des quartiers à détruire. C'est-à-dire qu'il y a une urbanisation, et là je suis tout à fait d'accord avec Thierry, c'est-à-dire qu'en fait depuis l'histoire de l'urbanisme et la planification urbaine, on en a des traces déjà au bronze ancien 4, au Moyen-Orient, enfin on a des villes planifiées, etc. Bon alors là, sur ces villes-là, j'ai pas trouvé de bidonville, mais c'est un chantier qui serait intéressant à développer. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a la ville on a une histoire de la ville et que cette ville, à un moment, comment dire, il y a l'urbanisme, je dirais, la planification et l'urbanisme qui s'est développé, qui s'est étendu à l'échelle internationale avec des experts qui passent d'une ville à l'autre et des idées qui passent d'une ville à l'autre aussi sur comment faire pour améliorer les conditions de vie, pour améliorer... C'est vrai que ça part de villes invivables, Barcelone, Paris, etc. Et qu'on a voulu améliorer. Et en voulant améliorer, en mettant des normes, finalement, on laisse de côté une partie de la ville qui ne se fait pas comme souhaité. Et on décide que ça ne peut pas continuer. Je vais vous donner un petit exemple que je trouve très très caractéristique de ce que c'est qu'un bidonville. C'était en 1937 à Recife, au Brésil. 37 ou 38, je ne sais plus exactement. À ce moment-là, c'est un moment de grande de migration rurale. Donc les gens arrivent en ville, une croissance de la ville rapide. Donc les gens arrivent, ils s'installent avec des maisons en paille qu'on appelle des mocambo. C'est une histoire que raconte une collègue à Chicago qui s'appelle Brodune Fischer. Et ces maisons, donc il y en a de plus en plus. Et en même temps, vous savez, 1937, c'est Le Corbusier, c'est tout ce moment du béton qui arrive, de l'amélioration des villes, de la planification dans les colonies françaises où on fait des plans d'Angers, etc. Et c'est ce moment-là où on fait aussi, on commence à mesurer la maladie, la mortalité. Et on s'aperçoit dans cette ville que la mortalité et la morbidité est plus importante dans ces quartiers où il y a des maisons en paille que dans les nouveaux quartiers en béton. Évidemment, tous ceux qui sont dans les maisons en paille ne peuvent pas se payer d'aller dans les maisons en béton. Et alors, au lieu de se dire « Ah ben, on va leur donner de l'eau, on va aller mettre des cliniques, on va aller les soigner, on va améliorer leur quartier », non, ils ont dit « Ah non, en fait, ce qu'il faut, c'est interdire les maisons en paille à Récif ». Donc, à partir de ce moment-là, les maisons Mocambo ont été interdites. Et donc, c'est ça, pour moi, la création, la bidonvillisation. C'est-à-dire qu'on avait des maisons qui étaient normales dans le paysage, et qui tout d'un coup se retrouvent interdites d'exister. Alors les gens, ils ont continué à rêver, ils ont continué à construire comme ça, c'était leur façon de faire.
Parce qu'on leur a pas demandé leur avis.
Bah non. Et puis d'un coup, bah, puisqu'ils sont illégaux, on va pas leur donner l'eau ni l'électricité. C'est vrai qu'on va remettre de la précarité par-dessus. Et donc on a, quand je dis qu'il n'y a pas de quartier informel en soi, il ne devient informel que parce qu'il y a une politique publique qui vise à faire disparaître ces quartiers. Alors aujourd'hui, c'est faire disparaître par l'éviction ou faire disparaître par l'intégration, mais on ne peut pas les laisser comme tels. Ça ne peut pas être comme urbain. On est vraiment dans la représentation de qu'est-ce qui doit être urbain ou pas. Alors bien sûr, ça va avec les normes, hein, je ne dis pas que c'est négatif et qu'il n'en faut pas, mais il y a une inadaptation de tellement de politiques qui créent finalement des bidonvilles, et puis ensuite, ça se poursuit. Mais je trouve que cet exemple est assez éclairant. Et donc, les années suivantes, on aurait pu dire non, bah finalement, on a le droit, puis on va les améliorer. Non, on a continué. Et donc, quand je dis que c'est une histoire des politiques urbaines et de l'application des normes, y compris les normes de la propriété privée, comme on peut le voir en Cambodge, je ne vais pas développer ici, mais toutes ces normes, en fait, fabriquent des squatteurs et puis de la ville qui est catégorisée comme à détruire, c'est-à-dire avec les mots utilisés localement, pour des raisons différentes, avec des définitions différentes et des définitions qui bougent dans le temps. Hein, en Syrie, on a plusieurs lois, 1960, 2003, 2008, 2012, avec à chaque fois des définitions différentes. Mais ce qui fait que de temps en temps, on est en dehors ou à l'intérieur de ce qui doit être détruit. Et puis en plus, les définitions sont pas très justement. Là, il parle de l'infraction et justement, il y a des bâtiments riches, enfin des bâtiments, des villas qui sont en infraction, qui elles ne sont pas détruites.
Alors on va continuer à parler justement des solutions qui existent ou qui devraient exister et des politiques publiques. Mais d'abord, on va écouter Octopizzo. Alors Octopizzo, c'est un artiste qui est né dans le bidonville de Kibera à Nairobi. Sur ce titre, il rend hommage à Tom Mboya, homme politique kényan, l'un des pères de l'indépendance.
But here I am, dear ladies and gentlemen. I am just a human being like yourself.
Octopus, so sorry, kiskia history, jo history, sio history. Walame olinge uzagabana history na si story. Chulo day. Tom Boya, Tom lawyer, court goer, Tom soldier, intellect, my fighter, Tom scholar, top scorer, Tom leader, Tom konya. 'Cause these new niggas can't lead us. All my heroes die young, made me so afraid. The good die young. Is that what they say? Them bona hours they wanna act like they really say. Yes, man. I'm Benny Ule boy, me to African giant. Shaquille O'Neal, nigga. Black power, Black Panther. This type we say strong, we don't kneel, nigga. Colony wanna chupa shamba and they kill niggas. Nepotism, black on black, now we kill niggas. Wakoloni, Wakolonly, tough boy. Niko lobbying, niko foreign, aki foreign, na still low key. Jogo wa shamba, wiki mjini, but still kwezi street daily, niko koki. Kasi tomboya kunge kwa na Obama, let that sink in, before ni dive in. Kauko outside, the time inafo me sign in. Freedom fighting, backbiting, siko sightseeing. Bana kwa gani meona mbele, meni sidekick.
Kick. Human dignity. Sita surrender, skiza agenda, rasa kwa jela Akageziwa na maboy wake wa area No wonder nilichoraga wale mamplainer Meda za cheddars, finya mawaida, finger complainer Till death mina kimbiza kalenda R.I.P. kena koseti kivela Best MP forever pale kivela Freedom fighter, Winnie Mandela Cheza na agenda Wangari matani, wangari na dina Wangara li die, society kimedas We Apollo hanga don 63 kaujio nyango hanga bon 203 bana bano nyango hanga gone Saini bana mi blizo de Babylon Na choma Babylon Na hata nikisota siyombi Babylon Mwalimu mina tambuwa Julius Nyerere Milton Obote Check it down, rada safi makerere Chore ya mamwere we How you gon' win when you ain't right within How you gon' win when you don't fight regime Minister of Justice hakuwai pata haki Haki iwe ngao na mlinzi hondo nani
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI avec aujourd'hui une émission consacrée aux bidonvilles dans lesquelles près de 2 milliards de personnes logeront d'ici à 2030. Nous recevons pour en parler le philosophe et essayiste Thierry Pacaud et l'urbaniste et architecte Valérie Claire. Et on va partir tout de suite à Kédougou au Sénégal avec Babacar. Bonjour Babacar.
Bonjour Amélie.
Merci d'avoir appelé 7 milliards de voisins. On vous écoute Babacar.
Bonjour Amélie. Merci beaucoup de m'avoir associé à cette émission. Voilà, je voudrais juste donner mon opinion par rapport au phénomène des bidonvilles. Pour moi, en tout cas, en ce qui nous concerne au Sénégal, ce qui l'amène, c'est un mauvais aménagement du territoire. Donc aujourd'hui, tous les investissements sont consacrés aux grandes villes et particulièrement à notre chère capitale. Donc ce qui fait que elle constitue une attraction pour toutes les populations qui sont à l'intérieur. Et cette attraction, elle est accentuée par le phénomène des changements climatiques qui rend précaire l'agriculture de plus en plus. Donc, les gens qui étaient en campagne ont du mal à avoir suffisamment de rendement. Donc, ils sont obligés de venir en ville. Et malheureusement, sur le plan de l'urbanisation, nos autorités préfèrent construire des immeubles dans des villes à coût de milliards. Alors que, par exemple, pour 4 milliards, pour réaliser un immeuble à Dakar, vous pourriez construire 1300 maisons de campagne. Donc, je pense qu'il y a un déphasage entre nos autorités et les populations. Parce que, selon nos autorités, nos villes doivent ressembler à Paris, à New York. Alors que pour les populations à la campagne, ils veulent juste une amélioration de leur habitat naturel. Donc, avec des équipements plus modernes, juste ça. Donc, par exemple, aujourd'hui, 3 millions, 3 millions 500, maximum 4 millions, vous pouvez réaliser une bonne maison de campagne. Mais malheureusement, ce n'est pas le choix de nos autorités. On préfère toujours investir dans des immeubles. Voilà. Donc, et c'est des coûts exorbitants. Et finalement, ça constitue une attraction pour les populations qui sont à la campagne.
Alors si je résume ce que vous dites, Babacar, c'est que il y a finalement, selon vous, une attractivité peut-être trop accentuée sur la ville, sur le centre-ville, et un délaissement complet des campagnes qui fait que forcément les gens se retrouvent à vouloir habiter en ville, à vouloir... et donc il n'y a effectivement pas assez de place pour tout le monde, donc on en vient à occuper le contour, la périphérie de la ville, et la solution pour vous, c'est d'investir, de rendre attractif la campagne, ce qui n'est pas facile, vous l'avez dit, puisque les zones agricoles, etc., sont un petit peu en perdition et c'est très compliqué à cultiver avec le réchauffement climatique et à y vivre. Qu'est-ce que vous pensez de cette philosophie, Valérie Claire ? Vous êtes d'accord ?
C'est très difficile de...
Puisqu'on a dit tout à l'heure que les bidonvilles étaient aussi le produit de la ville et de sa croissance. Donc si on fait construire la ville autre part, si on divise la ville...
C'est sûr que les politiques urbaines, aujourd'hui, sont très liées à des représentations qu'une ville doit être attractive et attirer des capitaux. Et je pense que c'est un des principaux problèmes, comme le dit Babacar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit... des immeubles, l'immobilier devient un produit financier, ce qu'on appelle la financiarisation de l'immobilier. Et on construit de plus en plus de logements qui sont, pour beaucoup, vides. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles, d'une part. Et puis, d'autre part, ils sont laissés vides parce que c'est plus facile de spéculer sur des logements vides que sur des logements occupés. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. J'avais calculé à Damas entre 2000 et 2009 qu'il y avait autant de logements vides qui s'étaient construits que de logements informels. Et tous les logements informels étaient habités et tous les logements formels. Et du coup, logiquement, hein, mathématiquement, c'était un petit calcul en ordre de grandeur, était vide. Et ces immeubles, ce logement vide à l'échelle internationale, je trouve, est assez scandaleux quand on voit que voilà, on n'arrive pas.
Et pourquoi ils ne se remplissent pas ?
Parce que c'est des produits financiers. Finalement, ils sont devenus trop chers. Mais on le voit partout. On le voit à Paris. À Paris, il y a de plus en plus de logements vides, 20%, voilà. Alors que on a des gens qui arrivent pas à se loger, 5000 personnes, et on a 20 000 logements vides et 5000 personnes à la rue. Et non, on les laisse vides. On va pas parler de Paris ici, d'autant que je suis pas spécialiste et que je suis susceptible de faire des erreurs de chiffres. Mais en ordre de grandeur, c'est ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on pense souvent à la migration. Alors moi, je suis moyennement d'accord avec ce qu'il dit Babacar sur la migration. C'est-à-dire effectivement, il y a des migrations et c'est ça qui remplit énormément les bidonvilles, mais en réalité pas que. Il y a au moins la moitié des bidonvilles qui sont simplement une croissance. C'est les enfants de ceux qui y étaient avant. Et puis on imagine toujours que c'est des squatteurs qui arrivent et qui s'installent, mais pas du tout. C'est des gens qui achètent un appartement. Ils n'ont pas les moyens d'acheter dans le formel, ils achètent dans l'informel. Mais voilà, comme vous et moi, si on n'a pas assez d'argent, comme n'importe quel étudiant, fonctionnaire ou je sais pas quoi.
Alors justement, Thierry Pacaud, dans votre livre, vous développez les conditions de vie et puis vous dressez un petit peu le portrait de certains habitants de ces bidonvilles. On se rend compte qu'effectivement, on n'est pas du tout dans un repère, je crois que vous dites à un moment donné, de narcotrafiquants et de prostituées. Au contraire, on a affaire aussi surtout à des actifs qui en fait peinent tout simplement à se loger.
Oui, exactement. Non, c'est pour ça que le mot représentation est très important et je consacre un chapitre entier sur le bidonville dans la littérature et un autre chapitre sur le bidonville dans le cinéma. Parce que ce sont ces images-là qui vont être dominantes et qui vont finalement nous orienter. Et donc là, je reviens sur un point que je trouve très, très riche de ce qu'a dit Valérie, c'est que c'est la question des normes. Je pense que pour comprendre la bidonvillisation du monde aujourd'hui et son incroyable diversité, il faut désoccidentaliser notre esprit, ne cesser d'être des experts en développement et comprendre que c'est l'idéologie du développement qui a produit cette bidonvillisation, qui était une dévalorisation du vernaculaire. Donc on pointait du doigt la paillotte de tout à l'heure, mais on pointait du doigt tout ce qui était autoproduit de manière domestique, en disant c'est pas bien, c'est pas moderne, et puis maintenant il faut du béton. Et les élites dirigeantes des pays qu'on appelait anciennement du tiers-monde, sont tombées dans le panneau du développement pour le profit, bien sûr, des multinationales du BTP. Et donc, moi, je soutiens toutes ces équipes d'architectes de plus en plus nombreux de par le monde, y compris en Afrique, qui sont pour un autre BTP, qui sont pour le bois, la terre, la paille et la pierre, et qui, à mon avis, vont dans le bon sens. Mais ils vont à l'encontre de toutes énorme. Les idéologies dominantes des nations qui misent sur le modèle chinois comme forme exemplaire de l'urbanisation à venir. Moi, je pense que notre interlocuteur sénégalais a tout à fait raison. Je l'ai écrit depuis très longtemps sans que ça puisse être repris en France. Il nous faut revenir à la dimension locale. Il nous faut être dans le cas par cas, dans le sur-mesure, dans le faire avec les habitants et le vivant. Et les habitants, dans les bidonvilles, il y en a. Et il y en a qui ont plein d'idées. Et plein de projets.
C'est ce que vous dites justement dans votre livre, Thierry Pacaud. Vous dites « Le bidonville n'est pas une fatalité, les solutions existent et elles ne peuvent se réaliser sans l'accord des principaux concernés finalement ».
Exactement. Et alors, c'est pour ça que ça m'avait un peu énervé lorsque j'ai ouvert le dossier de John Turner, qui est un architecte anarchiste anglais, qui était un ami d'Ivan Illich et qui est toujours vivant. Il est né en 1927, parlé avec lui il n'y a pas si longtemps, John Turner, qui a écrit un livre, Le logement est votre affaire, partant de son expérience des bidonvilles qu'il avait observées au Pérou et au Mexique dans les années 50 et au début des années 60, était favorable à l'autoproduction. Et alors, c'est étonnant, c'est tous les gens de gauche qui étaient contre lui, qui ont dit « Ah, laissez les gens auto-construire, les laisser se débrouiller par eux-mêmes, c'est vraiment un point de vue néolibéral. » Alors, le pauvre John Turner, lui, il ne comprenait pas ça, parce que son point de vue était l'inverse. Mais pour toute une gauche, à un moment donné, omnubilée par le développement, il fallait une politique de logements sociaux. Alors, on sait que les logements sociaux en Afrique noire, par exemple, sont pour la middle class. Ils sont trop chers pour les gens qui ordinairement logeaient dans quelque chose qui était auto-construit. Donc là encore, vous voyez, il faudrait que les dirigeants, et ce n'est pas leur vocation évidemment, aient confiance dans la population.
Ils mettent à disposition aussi effectivement, comme vous me le disiez tout à l'heure, Valérie Claire, un minimum d'infrastructures pour leur permettre, ne serait-ce que d'avoir accès à l'eau et à ce genre de choses. Alors Thierry Bacco, Valérie Claire, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Avant de se quitter, on écoute la voix de M.I.A., chanteuse et activiste britannique, merci à vous, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, c'est Paper Planes sur RFI. Milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Juliette Brault, Delphine de Dianous, Laurie Plisson et Adrien Toureau. Demain, vous retrouverez Emmanuel Bastide à ce micro pour une émission autour du miel. Comment est-il produit et consommé dans le monde? Comment éviter le miel contrefait? Vous pouvez dès à présent nous appeler et nous envoyer vos messages si vous souhaitez participer. Le numéro WhatsApp de l'émission, c'est le 33 7 64 45 51. 41. N'hésitez pas non plus à nous réécouter sur RFI.fr ou vos plateformes de podcast préférées. À demain, même heure, sur RFI. Découvrez l'Afro Club.